Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On est ensemble entre 10h et midi, 10h-11h les médias, 11h midi l'actualité. 10h-11h avec Rémi Pernelet. Bonjour Rémi.
Bonjour Valérie.
Journaliste spécialiste des médias et Gilles Gansman, journaliste, réalisateur, producteur et spécialiste également des médias. Il fait tout, c'est un couteau suisse.
Oui, exactement.
Tout. Il connaît tout, le monde, il est à l'affût de tout. Voilà.
Oh bah, qui c'est bon, voilà,
allez,
je
rougis. Il fait les conférences de presse.
Oui, hier j'ai vu Maître Gims pour la première fois. Il était très bien, il chantait super.
Bah super, on est content pour vous.
Oui, excusez-moi.
Allez, on va parler.
La conférence de presse d'énergie.
On va parler illettrisme, ça ne vous concerne pas évidemment.
Si, un peu à l'écriture. Venez pas me chercher sur ce terrain.
Je ne révélerai pas nos petits secrets. On va parler illettrisme avec un très beau téléfilm qui va être diffusé ce soir sur France 3, suivi d'un documentaire où la journaliste Alexandra Alévèque est en immersion. 21 jours au cœur de l'illettrisme, ça concerne 3,5 millions de personnes en France. Peut-être être vous concerné, c'est dur à dire. Appelez-nous 0826 300 300, on va en parler. Et puis on aura Tatiana Silva avec nous pour nous parler du 90 minutes enquête, adultère, filature, disparition, le monde secret des détectives privés. Et on commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors, le carton.
Eh bien, le carton hier, c'est pour L'amour est dans le pré, sur M6. 4 321 000 téléspectateurs, 18,9% de part de marché. C'est 80
000. Battu TF1 ?
Ouais, 80 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. M6 hier était la première chaîne, avec, alors pas beaucoup, hein, 40 000 téléspectateurs d'avance sur le téléfilm de TF1 « Tu vivras ma fille » avec Cécile Bois, qui a fait 4 278 000 téléspectateurs. Mais évidemment, le téléfilm d'hier sur TF1 a perdu 600 000 téléspectateurs si on le compare avec Camping Paradis la semaine dernière. Donc effectivement, L'amour est dans le pré en tête. On va en reparler tout à l'heure.
Voilà. Le Gadin.
Le Gadin, c'est en revanche pour La Grande Évasion sur France 3. 1 342 000 téléspectateurs, seulement 7,5% de part de marché. Pour le film, alors là, c'est un film de 63 avec Steve McQueen. Je pense qu'il a dû passer tous les ans depuis les années 70 ou 80.
Oui, 10, hein.
Donc,
mais il y a si des films qui passent et repassent et qui sont des films cultes.
Non, mais je pense simplement que là, l'audience d'un million trois, ça commence à être un peu le maximum de ce qu'on peut espérer. Donc, quand France 3 programme un film comme ça, ils savent qu'ils vont faire moins de 8% de part de marché.
Et puis, la surprise ?
Alors, la surprise, ce sont les bons scores des deux talk-shows d'Access. Vous savez, 1 428 000 téléspectateurs pour Quotidien sur TMC, 1 309 000 téléspectateurs pour Touche pas à mon poste sur C8. C'est 200 000 téléspectateurs de plus que jeudi dernier. On sait que les démarrages étaient un peu lents. Eh bien, Yann Barthès, lui, a reçu longuement Vincent Mellet, l'auteur du livre sur Delarue. Cyril Hanouna a consacré son quart d'heure sans filtre, entre guillemets, au clash Zemmour-Absatoussi. On va en reparler aussi tout à l'heure. Donc, ça leur a bien réussi hier.
Ouais.
Et puis, je voulais donc débriefer les pronostics.
Oui, nos pronostics. Donc hier, on avait donné, nous, le téléfilm de TF1 en tête, que nous n'avions pas vu. Gilles avait donné L'amour est dans le pré.
Comment la semaine
4-0.
Non.
4-0 non.
Alors la semaine, si vous voulez, il y a 5 jours, vous voyez, donc vous ne pouvez pas commencer à 4-0.
On va parler d'illettrisme après, je vous rappelle. C'est écrire, lire et compter. Voilà.
Donc voilà, c'est vous qui avez gagné sur les pronostics. Et puis alors, j'ai un petit point sur l'heure de début des prime time.
Valérie.
Donc vous allez voir, c'est toujours aussi bien. Hier, TF1 21h11, France 2 21h09, France 3 21h08, M6 21h09, mais alors C8 21h20 et TMC 21h21. Ouais. Donc c'est maintenant devenu. La norme. Il n'y a rien qui commence avant 21h20 et on sait un peu pourquoi. Ils veulent mettre de la pub chère à 21h20. Après 21h, ça leur permet d'en mettre un peu plus.
Enfin, 21h10, France Télévisions, c'est quand même...
C'est quand même fou. Hein. Oui, France 2 et France 3. C'est quand même qu'on se rappelle, vous l'aviez rappelé, Rémi, qu'il y a quelques années, il fallait que ça commence à 20h30.
À 20h30. On est loin du compte.
On va passer au zapping. Oh non, on a un appel, un téléspectateur qui est un auditeur téléspectateur qui est en ligne avec nous. Allô, oui,
c'est Arthur.
Bonjour Arthur.
Bonjour à tous, comment allez-vous?
Ça va,
très bien,
et vous? Qu'est-ce que vous avez regardé
bien,
hier soir?
Écoutez, j'ai regardé L'amour est dans le pré.
Oui.
La première partie seulement. Car j'étais super contrarié par l'une des candidates. Alors je me souviens plus, celle qui s'est permis de demander tout et n'importe quoi lors du repas.
Ah ouais.
Ah oui.
Alors, ça vous fait demander du pain sans gluten,
je crois, qui a ensuite demandé un couteau à pain, une planche à pain. Elle m'a Elle était irascible.
Et alors ça, ça vous fait quitter la télé, ça carrément vous,
non,
ça
non,
vous
non, fait non, zapper. Ça me fait passer sur une autre chaîne et je passe sur un programme avec un peu plus de virilité, je passe sur Expandables.
Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, vous êtes, trop niaiserie, à un moment, c'était trop pour moi, donc j'ai dû passer sur quelque chose de plus viril.
Expandables sur TMC.
Expandables, voilà, un classique, honnêtement, j'ai vu des centaines de fois, mais c'est très bien.
D'accord, mais vous êtes plutôt fan de L'Amour est dans le Pré, quand même, globalement.
À la base, oui, mais là, le casting cette année, je le trouve un peu plus décevant par rapport aux autres années.
Bon. Bah, il est plutôt bien fait, moi, je trouve. Enfin,
il est bien fait, non. Il est bien fait, mais bon, on retrouve encore une fois de plus l'agriculteur normand, éleveur bovin. Je suis normand en plus de ça, donc c'est un peu cliché.
Bah, y a quand même beaucoup d'agriculteurs dans votre région.
Hein, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire, mais voilà, ça manque un petit peu de personnages forts par rapport aux autres années où on avait vraiment des caractères un peu plus prononcés.
Ouais. Bon, merci beaucoup Arthur, voilà. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée à vous, 0826 300 300. Si vous voulez vous aussi réagir au programme que vous avez vu, n'hésitez pas à nous appeler, on vous prendra à l'antenne. Alors, le zapping, c'est maintenant.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors hier, donc quotidien sur TMC, Téléprix qui croyait prendre, Marine Le Pen qui était en congrès a critiqué la boutique de l'Élysée. Vous savez que l'Élysée a ouvert une boutique et puis elle trouvait que c'était un peu trop à la gloire du président. Mais quotidien a été voir de son côté la boutique de Marine Le Pen.
Même la volonté de rendre à la fonction présidentielle sa dignité s'est fracassée sur quelques t-shirts ou mugs démontrant un penchant puéril et ridicule pour l'autopromotion et le nombrilisme.
Venant de la femme qui pose avec son chat pour un calendrier en vente sur le site du FN, venant de la femme qui vend des briquets avec son prénom dessus, sinon elle a quoi d'autre en rayon ? Le porte-clé lumineux, Marine, qui ira très bien au bout de votre clé, venant de celle qui se met en scène pour un autre calendrier dit prestige où elle fait du bateau. Elle disait quoi, la dame du calendrier ?
Un penchant puéril et ridicule pour l'autopromotion et le nombrilisme.
Téléprix qui croyait prendre.
Dans le quotidien, il y avait aussi une séquence extraordinaire. Je pense pas que vous l'ayez prise parce que c'était plutôt visuel. C'était à propos des ouragans de.
Avec les deux qui marchaient derrière.
Avec un reporter d'une chaîne qui était penché pour montrer combien le vent était
difficile,
vraiment très
fort. Il n'arrivait pas à avancer.
Et juste derrière, on voyait deux piétons qui marchaient normalement. Ouais. C'était exceptionnel. Ouais,
ça a fait le buzz sur Internet et il y a eu beaucoup de parodies.
Sur ce journaliste. Un reportage amusant, donc c'est à vous sur France 5 hier, parce que évidemment suite à la déclaration d'Emmanuel Macron, vous savez, je te trouve un emploi tout de suite, tous les journalistes ont été évidemment sur le trottoir d'en face.
Bonne idée Coco, tu sais ce qu'on va faire, on va aller chercher du boulot,
en caméra cachée, mais seulement évidemment... Ouais. Les commerçants n'ont pas été dupes.
Combien de journalistes sont venus vous voir depuis la phrase d'Emmanuel Macron samedi ?
4 journalistes qui sont venus hier.
Mais il y en a 2 hier et 3 aujourd'hui.
Bon, à peu près toutes les chaînes d'information.
Déjà, il y a une première dame qui est venue en caméra cachée. Donc en fait, elle s'est présentée pour postuler et elle n'avait pas CV sur elle.
Le problème, c'est que c'est toujours un peu déviant, c'est qu'ils viennent sans CV, ils viennent un peu au bonheur la chance sans vraiment travailler la chose. Et du coup, déjà, on s'est rendu compte directement que c'était des caméras cachées.
J'ai senti directement que c'était pas du tout une personne qui était dans la restauration. Elle était vraiment pas du métier. Ça se voyait.
Les caméras cachées, c'est plus ce que c'était.
Oui,
Surtout,
c'est utilisé pour tout et n'importe quoi, là, franchement, en caméra cachée.
Oui,
c'est...
puis s'ils viennent sans CV.
Non, mais ils auraient pu le faire, mais de le faire de façon.
Bien travailler.
Oui, mais on sait que c'est un vrai travail. Dans l'émission des Infiltrés que présentait David Pujadas, c'était des mois de travail pour que ce soit bien fait.
Ouais, et puis surtout, ils les ont tous vus défiler. D'un seul coup, il y a eu un afflux de demandes de boulot. Ils ont dû se demander ce qui se passait.
Tout le monde voulait rentrer dans la restauration. Voilà. Donc.
Alors, Cyril Hanouna, hier, a joué la réconciliation avec TF1 suite aux insultes qu'il avait proférées aux dirigeants de TF1. Et le hasard, parfois, fait bien les choses.
Sur qui je tombe après tout ce qui s'est passé la semaine dernière ?
Ara.
Je tombe sur pas Ara Aprikian, le numéro 2 de TF1, mais le numéro 3, Xavier Gondon.
Non.
Je tombe nez à nez avec lui. Gondon. Et je lui dis ça va, j'y suis allé cette semaine. Il me dit oui, il m'a dit un truc. Il m'a dit écoute, c'est le jeu. Il m'a dit c'est le jeu de la télé. Écoute, c'est le jeu, voilà. Il m'a embrassé comme du bon pain.
Oh là !
Et il m'a dit bonne chance pour la semaine prochaine. Je pense à toi et aussi pour vendredi soir ton nouveau talk-show. et je regarderai. Oh, voilà, donc ça, ça c'est
sympa. Ça vous a touché ?
Ça, sympa. Ça s'arrange. Ouais, on s'est embrassé. J'ai retrouvé mon Xavier Grandon qui était mon pote. Donc voilà, ça m'a fait plaisir.
Alors, ça s'arrange. Oui, dans l'émission de Cyril Hanouna, parce que au CSA, ça s'arrange pas. TF1 a déposé sa plainte pour non maîtrise de l'antenne, injure, etc. Donc ouais, ça s'arrange, vous savez, en façade.
Mais effectivement, TF1 a décidé de visiblement de saisir le CSA.
De saisir le CSA, tout à fait.
Oui, ouais. Puis alors Xavier Grandon qui a une certaine classe, je le vois pas non plus l'agresser comme ça.
Non, il s'est juste fait traiter de connard. Enfin, bon, il faut bien le prendre.
Allez, autre son, Gilles.
Oui, absolument. Pour finir, on va en parler dans un instant avec Rémi, puisque évidemment, alors hier, il y avait du Zemmour partout. Je pense que c'est la plus grande belle campagne de promo
pour le livre qui était déjà en tête des ventes quand il est passé chez Ardisson.
Mais là, je pense que ça va exploser. Ouais. Faudra qu'on regarde les chiffres. Et dans C'est à vous, Jean-Michel Apathy s'est énervé.
Je déteste Zemmour depuis très longtemps.
Ah oui,
je ne lui serrerai plus la main à RTL parce que je ne comprends pas qu'on donne la parole. On parlait de mépris tout à l'heure. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit « Mais vous, c'est Corinne qu'il faudrait vous appeler. » Mais nous sommes à la limite de la folie. Je voudrais dire autre chose. Je l'ai entendu sur RTL lundi dernier. Je n'ai pas lu son livre. Peut-être que je le lirai, mais enfin, je ne suis pas sûr que j'y mettrai beaucoup d'argent. Il dit, sans qu'il soit repris d'ailleurs, il dit, vous savez, De Gaulle et Pétain, il n'y en a pas un qui est blanc et l'autre qui est noir. Les deux, c'est gris. Mais il y en a un qui a fait voter les lois anti-juives et l'autre qui a fait le 18 juin 40. Comment on peut éditer chez Albin Michel, qui est une grande maison d'édition, un livre de pacotille comme ça, une merde comme ça? Franchement, là aussi, chacun a une part de responsabilité. C'est insupportable de voir ça.
Voilà, donc
Jean-Michel Apathy.
Sur le plateau, il y avait aussi le professeur Cayatte qui publie chez Albin Michel, mais qui n'a pas moufté. Alors, je ne sais pas s'il était en plateau à ce moment-là, quand ça s'est passé, mais voilà. Mais qui n'est donc Jean-Michel Apathy, qui n'a pas lu le livre. Alors, on va passer.
C'est dingue.
Allez, on va se retrouver dans un instant. On va continuer à parler justement des suites de l'affaire Zemmour et de cette intervention en particulier de Jean-Michel Apathy. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, on parle médias entre 10h et 11h. On aura avec nous Tatiana Silva tout à l'heure pour nous parler de 90 minutes enquête qui sera diffusée ce soir sur TMC. Et puis nous parlerons également d'un magnifique téléfilm ce soir sur France 3 et d'un documentaire qui suivra juste après le téléfilm 21 jours au cœur de l'illettrisme. La journaliste Alexandra Alévèque qui sera avec nous en plateau, qui est spécialiste de l'immersion, a passé 3 semaines dans une association pour apprendre, être à l'écoute de ces gens qui aujourd'hui ne savent ni lire ni écrire. Ça représente près de 3 millions de personnes en France aujourd'hui. 0826 300 300, appelez-nous pour témoigner si c'est votre cas. C'est vrai que c'est difficile parfois, on va le voir tout à l'heure, d'en parler. On aura également avec nous le président de l'association de
l'Agence nationale contre l'illettrisme.
Mais on va revenir avec vous, Rémi Pernelet, sur les suites de l'affaire Zemmour.
Oui Valérie, hier encore un happening sur Touche pas à mon poste, puis aussi sur d'autres chaînes, à propos du clash Éric Zemmour-Absat aussi. Comme vous le savez, tout est parti de l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du Dimanche, dans laquelle Éric Zemmour était invité pour parler de son nouveau livre Destin français. Éric Zemmour expliquait, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises d'ailleurs, que les enfants nés en France devraient tous porter un prénom issu du calendrier, donc des prénoms de saints catholiques. Et il a eu un échange assez violent avec Absat aussi, en lui disant que sa mère aurait dû plutôt l'appeler par exemple Corinne. Bon, le clash aurait d'ailleurs été plus important que ce qui a été vu à l'antenne, puisque la phrase « Vous n'êtes pas une enfant de la République, votre prénom est une insulte à la France » aurait été prononcée et coupée au montage par décision de la chaîne.
Et c'est là-dessus qu'Afsat aussi dit qu'elle veut porter plainte et attaquer.
Porter plainte. Absolument. Et alors, au-delà du fond du sujet, bon, la multiplication de prénoms non français donnés aux enfants nés en France, c'est un des thèmes favoris d'Éric Zemmour. Il avait interpellé Rachida Dati à ce propos, à propos de sa fille Nora.
Zora.
Oui.
Zora.
Bon, mais c'est la façon dont le sujet a alimenté le buzz hier qui m'a choqué, et plus particulièrement dans Touche pas à mon poste. Enfin, je vais commencer par les autres chaînes. C'est LCI qui a commencé à 11h du matin, avec un scoop, puisque Éric Zemmour était en plateau. Et qu'est-ce qu'il était là pour faire quoi? Pour confirmer à Audrey Crespo-Mara ce qu'il avait dit dans l'émission de son mari la veille. Quotidien, lui, a fait un décryptage assez clinique en détaillant les phrases coupées au montage. Dans cet avou, Gilles, vous nous l'avez fait entendre, Jean-Michel Apathy s'est violemment emporté contre Éric Zemmour, c'est son droit. Il a expliqué qu'il n'avait pas lu son livre, c'est aussi son droit, sauf que, comme vous le dites, on l'a vu, un instant plus tard, il s'est quand même emporté contre Albin Michel, une grande maison d'édition. Comment peuvent-ils publier un livre de papcotille comme ça, une merde comme ça? Ah bon, d'accord, peut-être, mais il venait de dire qu'il ne l'avait pas lu en même temps, juste avant. Mais enfin, c'est Touche pas à mon poste qu'on a fait le plus. pour profiter du buzz sur le sujet. Cyril Hanouna, après, fallait-il consacrer un livre à Jean-Luc Delarue, le thème du débat de jeudi, à organiser un débat intitulé « Faut-il encore inviter Éric Zemmour à la télévision ?» Enfin, c'est un pseudo-débat, pour moi, en forme de provocation. On avait en invité André Bercoff, François Durper, donc on pouvait être à peu près sûr qu'il y aurait des clashs et des coups de gueule, il y en a eu. Gilles Verdez aussi, qui carrément a dit que si Éric Zemmour dit ça devant moi, je le gifle. Et le comble du cynisme, je pense, c'est lorsque Hanouna explique « il y a une hypocrisie, Éric Zemmour, il fait de l'audience et tous les producteurs le veulent ». J'imagine que lorsqu'il parle de l'hypocrisie des producteurs, il parle d'abord de lui. La preuve, c'est cette question qu'il pose à la fin du débat. Est-ce que si cette séquence avait été dans notre émission, ça n'aurait pas été 100 fois pire ? Dans sa tête, je pense qu'il veut dire 100 fois mieux. La réponse est oui, bien sûr. D'ailleurs, l'audience aurait été bien plus forte. Du coup, le buzz aussi. Et c'est tout ce que cherche Touche pas à mon poste avec ce débat, comme avec celui sur Delarue. D'ailleurs, c'est Mathieu Delormeau qui l'avoue en fin d'émission. Il dit, je cite, « que quelqu'un ose dire qu'on ne s'est pas servi du buzz d'Ardisson pour notre émission de ce soir ». Moi, je note que sur le plateau, personne ne l'a démenti.
Mais même Cyril Hanouna, moi j'ai vu le débat, même Cyril Hanouna à un moment a dit « c'est le jeu, c'est comme ça ». Oui, bien sûr que Thierry Ardisson a invité Éric Zemmour pour faire le buzz. Et c'est comme ça, et c'est de la télé, et c'est du show. Et puis, donc est-ce qu'on peut le reprocher? C'est sur la manière de formuler.
Oui, sauf que quand il titre son débat « Faut-il encore inviter Éric Zemmour à la télévision ?» Lui, dans son idée, c'est bien sûr que oui, il faut encore l'inviter. Et si possible, dans mon émission.
Mais
il donne la parole à tous les gens qui plaident la cause de non, faut arrêter de l'inviter.
Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'émission a été enregistrée le jeudi pour le dimanche. Celle de Thierry Ardisson. Donc ça a été enregistré. Et donc tout ce clash-là, non seulement a été indirectement annoncé, parce que sur Twitter, vous aviez des petites bandes annonces de Zemmour qui s'énervaient. Donc la chaîne en était consciente, et Ardisson aussi. Donc l'hypocrisie, elle vient aussi d'Ardisson, qui savait très bien ce qu'il y avait dans son émission qui allait être diffusée le dimanche.
Je pense que l'affaire n'est pas terminée. Voilà, tout autre chose. On va passer à notre débat du jour. C'est un téléfilm que je vous encourage vraiment à regarder ce soir, de Jean-Pierre Améris, avec le formidable comédien Kevin Azaïs dans le rôle d'un jeune ouvrier d'usine
qui n'a jamais
osé avouer à son patron qu'il est illettré, avec Annie Cordy, qui elle-même est illettrée, qui a élevé son petit-fils et qui n'a pas su lui apprendre à lire, à écrire, en tout cas à être là. Et puis ce téléfilm, c'est vraiment la solitude de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, qui est raconté avec la difficulté de l'apprentissage quand on arrive à l'âge adulte. Avec nous, Alexandra Alévèque, bonjour, vous êtes réalisatrice de documentaires, vous êtes spécialiste de l'immersion, vous avez été en immersion, en immersion donc, dans cette association Mots et Merveilles dans le nord de la France, vous y avez animé des ateliers de calcul, d'écriture, puis vous avez surtout écouté ces histoires, ces gens qui se retrouvent aujourd'hui totalement isolé du monde. Et puis on a Hervé Hernandez avec nous. Vous êtes directeur de l'Agence nationale contre l'illettrisme. La semaine dernière étaient lancées les journées nationales contre l'illettrisme. Je le rappelais, ça concerne près de 3 millions de personnes, 7% de la population. C'est assez énorme. Est-ce que c'est un chiffre qui bouge ou pas tellement ?
Oui, c'est un chiffre qui bouge puisqu'on a mesuré une première fois l'illettrisme en 2004. Alors il faut être clair sur ce dont on parle. Hein. L'illettrisme, ouais, ça concerne des personnes qui ont toutes en commun d'avoir été scolarisées dans notre pays, c'est-à-dire qu'elles ont fréquenté l'école,
ouais,
et puis une fois adultes, elles ont perdu, elles ont leurs compétences de base en lecture, écriture, calcul, se sont effritées. Donc on a mesuré une première fois avec l'INSEE ce taux d'illettrisme en 2004. On s'est aperçu qu'il y avait 3 100 000 personnes qui étaient confrontées à l'illettrisme, et puis l'INSEE a mesuré à nouveau ce taux en 2012, et là on s'est aperçu qu'il y avait 2 500 000 personnes confrontées à l'illettrisme, c'est 7% de la population, donc ça fait une réduction du nombre de personnes de 20%, mais les efforts doivent s'amplifier, il faut continuer la mobilisation, il faut parler de ce problème pour donner à voir cette réalité.
Et en parler avec des fictions comme celle de ce soir, que je trouve exceptionnelle, c'est une bonne chose d'après vous ?
C'est très très important, le documentaire qui va suivre la fiction, c'est très très important puisqu'on donne un visage à ce problème, on fait toucher du doigt cette réalité que traversent les personnes qui sont confrontées. Bon, enfin, très concrètement, elles ne peuvent pas comprendre une consigne au travail. Hein.
Ouais. Mais si elles ont été à l'école, comment on contre l'illettrisme ? Parce que logiquement, la solution, c'est je vais à l'école, on m'enseigne à écrire et à compter, c'est là où j'apprends.
Oui,
et
Alexandra Lévesque, c'est quoi ?
Ça veut dire qu'il y a eu des manquements. Il y a des adultes, moi, qui m'ont raconté qu'ils avaient oublié, c'est-à-dire qu'ils avaient appris. D'accord. Sans forcément comprendre, parce qu'il y a différents stades dans l'illettrisme, et on peut savoir déchiffrer, mais ne pas comprendre une phrase. Et une phrase très simple. Mmh. Donc ça veut dire que ces gens qui ont été scolarisés au moins 5 ans, on est en France, l'école est obligatoire, bah, soit l'apprentissage n'est pas rentré, soit il ne s'est pas suffisamment installé, et au fil du temps, personnes n'ont pas été amenées à lire suffisamment, et elles ont oublié. Mmh. Mais le gros problème aussi, c'est ça, c'est la compréhension de ce qu'on lit. Mmh. Et puis, moins on est sûr de soi, plus ça empire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement honteux de ne pas comprendre des consignes toutes bêtes, qu'ils s'enferment, mais physiquement. C'est-à-dire que c'est des gens qui baissent la tête, qui s'enferment en eux-mêmes et qui s'enferment chez eux.
Dans le téléfilm, Léo, le héros, explique qu'il est allé jusqu'en troisième. Et on voit qu'il est complètement illettré. C'est possible, ça?
Mais bien sûr.
La question qu'on se pose tous, c'est de savoir comment on fait réussir les enfants des familles les plus pauvres aujourd'hui. C'est ça, la question. Comment pour éradiquer l'illettrisme, il faut agir le plus tôt possible, faire en sorte que tous les enfants maîtrisent bien la lecture et l'écriture. C'est comment on se réunit pour que les enfants prennent un bon départ, qu'on leur donne ce socle, qu'on s'assure qu'ils maîtrisent bien ce socle avec des évaluations, avec des mesures spécifiques, avec toutes les associations aussi qui travaillent autour de l'école, qui peuvent agir auprès des familles. Mm-hmm. Donc, et puis, il faut aussi entretenir ce capital, comme le disait Alexandra, tout au long de la vie, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas en difficulté lorsqu'il y a des changements. Parce que ces personnes mettent en place des stratégies pour éviter des routines, des stratégies de contournement. Mais dès que le numérique est présent au travail, et le numérique est présent partout, dans la vie de tous les jours, dans les démarches administratives, au travail, de plus en plus, derrière le numérique, enfin, ou devant, c'est l'écran, l'écrit. Il y a beaucoup plus d'écrits dans la vie de tous les jours. Donc, ces situations-là, elles révèlent de nouvelles situations d'illettrisme. Et le film, et le documentaire de ce soir sont très importants parce que le message qu'on a voulu faire passer dans ces journées nationales, c'est face à l'illettrisme, vous n'êtes pas seul. Des solutions existent, c'est le cœur de notre
campagne. Mais la difficulté est d'en sortir. On va y revenir et on va en parler justement avec vous pour ces témoignages que vous rapportez dans ce documentaire où les gens se sentent extrêmement isolés et la difficulté de le dire et de faire le premier pas. On va y revenir. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Ne manquez pas ce soir le téléfilm qui sera diffusé sur France 3 qui parle d'illettrisme. Regardez vraiment ce téléfilm et puis le documentaire qui va suivre 22h35, 21 jours au cœur de l'illettrisme avec vous, Alexandra Alévèque. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Et puis avec nous en plateau, Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale contre l'illettrisme. Ce qu'on disait avant d'être interrompu, Alexandra Lévesque, c'est la difficulté des gens à dire et à sortir de cet enfermement que vous évoquiez.
Oui,
qu'est-ce qui leur permet de franchir le pas, justement?
Alors, assez souvent, en tout cas avec les personnes qu'on a rencontrées, alors, documentaire que j'ai co-réalisé avec Philippe Lanier, parce que vous imaginez bien que je ne fais pas ça toute seule, toutes les personnes qu'on a rencontrées, enfin, très souvent, on nous dit, en fait, j'ai osé m'ouvrir et franchir le pas, pousser la porte d'une association parce que j'avais des enfants scolarisés et que je me disais mais en fait il faut que je casse la chaîne et que je puisse les aider le soir à l'école. Pour réviser les cours, faire la lecture, etc. Et dans ces cas-là, ils osent rentrer dans une association en disant faut m'aider parce que moi j'ai un petit qui va rentrer en CP. Et il faut que je puisse lui faire la lecture le soir.
C'est le déclencheur.
Une femme qui est dans votre documentaire et qui explique exactement cette raison-là.
Marie-Agnès, qui a deux filles et qui dit mais je c'est vraiment ça, je veux couper la chaîne, je ne veux pas que ça se reproduise parce que le papa de Marie-Agnès était lui-même illettré. Il interdisait à ses enfants de faire rentrer des livres à la maison parce qu'il voulait pas que ses enfants soient plus intelligents que lui entre guillemets. C'est terrible quand même.
C'est fou. Les illettrés d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier.
Non, c'est vrai, quand on regarde ces 2 500 000 personnes, on s'aperçoit que la moitié de ces personnes sont dans l'emploi aujourd'hui. Elles travaillent. Ouais. On s'aperçoit que 30% d'entre elles vivent dans des zones rurales. Donc l'illettrisme, ce n'est pas un phénomène qui est cantonné aux grandes villes. Il concerne les personnes qui vivent sur tous les territoires et dans les zones rurales. On s'aperçoit aussi que plus on avance en âge, et plus l'illettrisme augmente. Donc les personnes les plus âgées ont quitté l'école de bonheur, ont eu un parcours de vie un peu chaotique et ont perdu ce capital. Et puis, quand on demande aux personnes quelle était la langue qu'elles parlaient à la maison, parce que souvent on confond l'illettrisme avec l'analphabétisme, ce sont des analphabètes, des personnes qui n'ont jamais été scolarisées du tout. Et puis il y a aussi le besoin d'apprendre le français. français pour les personnes qui ne parlent pas notre langue. Mais là, l'illettrisme, les personnes qui sont confrontées, elles parlent notre langue. Quand elles s'adressent à nous, on les comprend. Quand on leur parle, elles nous comprennent. Et donc, quand on demande à ces 2,5 millions de personnes quelle était la langue qu'elles parlaient à la maison quand elles avaient 5 ans, ben 70%, 71% d'entre elles disent on parlait le français. Donc, on voit bien qu'il leur manque cette première marche indispensable qu'elles doivent acquérir pour être complètement autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne.
Et est-ce que le développement de tous les usages numériques pour toutes les démarches de la vie courante qui font que les guichets, ça disparaît. C'est, d'ailleurs, il y a une allusion qui est faite à ça dans le téléfilm à propos d'un guichet de SNCF. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui complique encore la vie comment ils font, en fait, c'est une vraie question. C'est comment aujourd'hui on peut encore se débrouiller dans la vie en étant illettré.
Alors on se fait aider. En fait, ce que nous disent les partenaires que nous rassemblons à l'agence, on rassemble tous les partenaires qui peuvent faire quelque chose dans ce domaine. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont confrontés à des nouvelles demandes. Des écrivains publics nous disent voilà, on doit créer des adresses email, on doit stocker des mots de passe. On a des personnes qui viennent nous voir pour faire des démarches de plus en plus. Donc il y a deux choses à faire. C'est d'abord s'assurer que les personnes réapprennent à lire et écrire pour qu'elles soient autonomes. C'est essentiel, lutter contre l'illettrisme. Mais puis il y a aussi des choses à faire au niveau de des sites, des espaces, de tout ceux qui dématérialisent, pour qu'ils aient conscience que ce problème, et c'est vraiment le sens des journées nationales, et le film sur France 3 ce soir et le documentaire sont très importants pour ça, c'est prendre conscience de l'existence de ce problème pour s'adapter aux personnes, non pas faire en sorte que les personnes s'adaptent, mais s'adapter aux personnes, et puis aussi organiser des solutions pour que les personnes avec le numérique réapprennent.
Quelles sont les solutions que vous apportez
à l'agence ? Est-ce qu'on en sort de l'illettrisme ? Est-ce qu'on en sort facilement ?
C'est possible.
Oui, c'est possible. Mais c'est difficile, Alexandra.
Bien sûr, c'est difficile, mais moi je l'ai bien vu avec toutes les personnes qu'on a suivies à l'association. C'est très difficile de réapprendre à lire, à calculer aussi, parce que les chiffres sont problématiques aussi. Mais c'est possible, je l'ai vu de mes yeux. Des gens de 40-50 ans réapprennent. C'est effectivement, c'est très
combien
compliqué.
De temps des années, non ?
C'est assez variable, mais oui, c'est un an, deux ans. Après, ça dépend d'où on part. Oui. C'est-à-dire que souvent, on nous dit « je ne sais pas lire ». C'est pas vrai. Oui. Ils savent déchiffrer, mais ils savent pas comprendre. Et puis, ils ont tellement peur de dire une connerie qu'en fait, ils se disent « mais non, mais moi, je sais pas ». Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ils continuent à le dire, c'est assez bizarre. Ils continuent à le dire, même quand l'apprentissage a avancé.
Il faut vraiment le dire. Il faut vraiment dire. On peut réapprendre, quel que soit son âge. C'est possible. C'est vraiment un message très important à faire passer.
Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, justement, qui sont dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font ? Vers qui on va ?
Avec leur entourage, c'est 0800 11 10 35. Un numéro vert national, ouvert à tous, 0800 11 10 35. Une personne au bout du fil, en région, donne l'adresse d'une association locale qui peut accompagner la personne vers cette réacquisition. Mais je crois qu'il faut dire que ça n'est pas parce qu'on est en situation d'illettrisme qu'on est moins intelligent, plus bête que les autres, qu'on a moins de capacités. Il y a des solutions, c'est ce qu'on a voulu montrer lors de ces journées nationales sur tous les territoires. Et on peut pousser la porte, on invite les personnes et leur entourage aussi à soutenir ces personnes pour qu'elles poussent la porte et qu'elles puissent réapprendre.
Est-ce que l'éducation nationale a conscience quand même des failles qu'il peut y avoir encore aujourd'hui ?
Elle a conscience parce qu'il y a des évaluations qui sont conduites au niveau
international. Oui, mais on fait quoi contre ça ça ?
On met le paquet sur les premiers apprentissages, sur ce qui se passe.
Donc le dédoublement de la maternelle est plutôt une bonne chose.
Le travail auprès des tout-petits sur le lexique, le travail auprès des jeunes en CP, on évalue leurs capacités, on prend en charge les difficultés lorsqu'on les a mesurés, on dédouble des classes.
Il y a une opération cette année de
le plan pauvreté de Macron.
Il y a une opération d'évaluation nationale de toutes les classes.
C'est très important. C'est très important d'avoir idée du
et en seconde,
d'avoir idée des capacités des enfants pour les aider, pour faire en sorte que ces enfants-là prennent un bon départ.
C'est ce que j'allais dire. Oui.
C'est pas pour la même raison. C'est pas que la grande opération d'évaluation, elle n'est pas que pour l'illettrisme. Donc c'est pour les évolutions des acquisitions. Mais c'est vrai que c'est aussi M2, je trouve que c'est important de le faire.
Oui. Est-ce que, puisque le documentaire a été fait il y a quelques années, est-ce que ça a été un déclencheur pour eux pour changer et se délivrer de tout ça ? Est-ce que vous avez des nouvelles de...
Alors, un déclencheur, je ne sais pas. En tout cas, je sais que ça les a... parce qu'ils me l'ont dit, y a eu une mise en valeur, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à eux. Encore une fois, c'est des gens qui sont honteux, qui vraiment se prennent pour des moins que rien. Et puis... et à l'école et à la maison, on s'emploie à le répéter. Donc, au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Mais ils m'ont tous dit qu'ils étaient très fiers d'eux. Et après la diffusion, il y a quelques années, après la première diffusion, des gens dans cette ville du Nord où on avait tourné allaient voir les personnages qu'on a filmés pour leur dire « Mais voilà, je vous connais, c'est une petite ville, je vous vois de temps en temps. Je ne savais pas. Bravo, je suis fière de vous, parce que vous avez osé dire les choses. Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe dans la tête de Joël, Marie-Agnès, Thierry, quand on leur dit ça. Ils étaient extrêmement fiers. On n'a pas été le déclic il avait eu avant nous.
Ouais.
On a... Voilà, on a
accompagné
une espèce d'effort et de mise en valeur.
Mais il y a une forte honte de ces personnes qui sont illettrées, c'est ce qu'il faut dire.
Moi, je le mesurais pas avant de les rencontrer, mais c'est incroyable, ça se voit à l'œil nu.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, qui veulent être une ombre, un zombie, qui veulent disparaître de la société parce qu'ils ont l'impression de n'être rien. Mais c'est des gens qui ne sont pas rien. Et puis je rebondis sur ce que disait Hervé tout à l'heure. On peut aussi rentrer dans une mairie, aller parler à son employeur. C'est pas une honte que d'aller dire à son employeur, voilà, je vous l'ai pas dit. Vous êtes peut-être pas rendu compte, je sais mal écrire, je sais mal lire, aidez-moi. Il y a des DRH en France, ils servent aussi à ça. Si c'est pas eux qui font le premier pas, il faut que ce soit les personnes qui souffrent d'illettrisme qui aillent les voir.
Et alors, c'est un motif de licenciement dans le téléfilm. C'est arrivé. Vous avez eu des retours sur ces choses-là.
Alors, il y a eu une situation de salariés dans l'hôtellerie qui ont agi ensuite en justice pour demander une indemnisation parce que leur employeur n'avait rien fait, ne leur avait pas permis de partir en formation alors qu'ils étaient eux-mêmes en situation d'illettrisme. Donc, les entreprises ont une obligation d'investir dans les compétences des salariés pour éviter qu'elles s'effritent et pour faire face aussi à des changements. Si on demande à quelqu'un de prendre un autre poste et que sur ce poste, il y a de la lecture, de l'écriture, du numérique et qu'il n'est pas en capacité de le faire, l'employeur doit investir, doit financer la formation.
Moi, je voulais savoir si c'était spécifique à la France ou est-ce que dans les autres pays, il y a moins d'illettrés qu'en France. Est-ce que, vous savez, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, est-ce que la situation est différente?
Souvent, pour établir des comparaisons internationales, on utilise les mesures de l'OCDE qui portent plus sur les acquis scolaires. Donc là, on est plutôt en milieu de tableau. Mais chez les adultes, on est un des rares pays à nommer ce problème, en réalité. Dans d'autres pays, on parle d'alphabétisation fonctionnelle, où on noie les difficultés. Mais on pense, en France, que pour combattre ce problème, pour apporter des solutions adaptées aux personnes qui ont tout en commun, on le disait, d'avoir été scolarisées, de cacher, d'avoir honte, venir à bout de ce stress permanent, de cette angoisse permanente, si elles réapprennent à lire et écrire, eh bien, il faut nommer cette question. Et grâce aux mesures, aux enquêtes de l'INSEE, on arrive à savoir si c'est un phénomène qui recule, qui progresse. Et puis, on a aussi la chance de pouvoir disposer des tests, si on peut dire ça comme ça, des tests de l'armée, de l'éducation nationale lors de la journée défense citoyenneté, qui nous permettent d'identifier les jeunes en difficulté pour leur proposer des solutions ensuite.
Enfin, c'est quand même fou en 2018.
En France.
2018 en France.
Parce que 2,5 millions de personnes, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. 2
millions d'illettrés en 2018.
Oui, c'est toute une ville. Ça veut dire que c'est toute une ville.
Dans une ville, c'est. Enfin, moi, je suis encore très en colère. Qu'il y ait encore 2,5 millions de personnes en France aujourd'hui qui se retrouvent handicapées. Pour moi, c'est un vrai handicap, un handicap moteur, qui se retrouvent handicapées chaque minute de leur vie. Imaginez, il faudrait que les auditeurs, à partir de maintenant, pendant une heure, se fassent la réflexion de tout ce qu'ils ont à lire pour avancer dans la journée. C'est sans cesse, on a des choses à lire. Et ben, un illettré, il est freiné chaque seconde de sa vie. C'est pas normal.
Il était question que Mme Macron s'en saisisse, en fasse une cause,
Macron.
Vous en avez entendu parler, Hervé Fernandez.
Sur le problème de l'illettrisme, je voudrais revenir sur la question de l'illettrisme, c'est un problème inacceptable. C'est pour cette raison qu'on appelle à se mobiliser et tous les mouvements de la société civile, les ministères, les collectivités, les entreprises aussi, puisqu'elles ont un rôle essentiel à jouer. Donc l'objectif pour nous, c'est de rassembler tous ces partenaires, dont ceux qui se font porte-parole, qui apportent un discours sur cette question, sont les bienvenus, bien sûr.
Vous ne m'avez pas répondu, non, a priori...
Vous êtes une agence nationale.
Mais je suis en train de poser une question, Gilles, donc j'aimerais bien avoir une réponse.
Comment Brigitte Macron, on ne sait pas.
Je l'ignore.
On
est une agence nationale, gouvernementale, mais qui rassemble des partenaires qui ont des sensibilités très diverses.
Et vous dépendez de l'État.
Pour partie de l'État, oui, bien sûr, pour partie de l'État. Oui, l'État est très mobilisé sur ces questions-là, alors au niveau national, mais il y a aussi ce qui ne se voit pas depuis Paris, sur tous les territoires.
Il y a suffisamment, aujourd'hui, d'associations comme Mots et Merveilles qui aident les gens, Hervé Fernandez. Oui.
Alors,
je trouve qu'il n'y en a pas assez.
Il y a des belles histoires, des belles associations, des bonnes pratiques. Disons, pour que l'action puisse se développer, il faut faire connaître ce qui existe, il faut donner envie à d'autres associations de s'emparer de ces questions-là, et c'est tout le travail qu'on mène lors des journées nationales et avec la mobilisation de France 3 qui se place au cœur de cette campagne, eh bien c'est une façon d'en parler, c'est une façon de faire connaître ce qui existe.
Très bien, merci à tous les deux. Donc ce soir, le téléfilm Illettré, vraiment je vous le recommande, Jean-Pierre Améry, c'est celui qui avait réalisé Les Émotifs Anonymes. Il sait très bien traiter ce genre de sujet, absolument. Et puis votre documentaire, Alexandra Lévesque, en immersion, donc 21 jours au cœur de l'illettrisme, ce sera mon choix pour ce soir, voilà, puisque nous donnons nos coups de cœur pour la soirée. Merci à tous les deux. Dans un instant, on se retrouve avec l'invité du jour, Tatiana Silva.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous entre 10h et 11h pour parler médias. 11h midi, nous reviendrons sur les sujets qui vous interpellent, les sujets qui font l'actualité. Et on va tout de suite passer à l'invité du jour.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Tatiana Silva. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes en Belgique.
Mais
c'est
oui.
Un petit peu normal parce que je crois que vous êtes un petit peu belge.
Oui, exactement. Mais je suis déjà rentrée, en fait. Pour vous, je suis rentrée déjà en France.
Ah, d'accord. Bah, très bien. Bon, on est contente de vous avoir, puisque ce soir, vous présentez 90 minutes enquête, adultère, filature, disparition, le monde secret des détectives privés. Vous êtes à la présentation de ce magazine à la place de Carole Rousseau. Comment ça s'est passé, cette arrivée sur ce magazine? On vous l'a proposé, vous avez tout de suite dit oui, vous êtes sentie dans votre élément avec ce type de magazine?
Écoutez, c'était une demande en fait de ma part de pouvoir avoir d'autres projets, ou en tout cas un autre projet que je pouvais combiner avec la météo. Et en l'occurrence, c'est un domaine qui m'intéresse énormément, tout l'aspect journalistique et puis l'aspect aussi de reportage, de documentaire, parce qu'on les regardait énormément. Et donc dans la vie, les occasions se créent au fil des opportunités et une question aussi de temps, de timing. Et donc dans ce cas-là, Carole Rousseau part vers de nouvelles aventures et sur une nouvelle chaîne, et il y avait des émissions à redistribuer, et ils ont pensé à moi, donc j'étais assez contente, et j'ai effectivement rapidement accepté.
Alors on va y revenir, mais vous savez peut-être, ou vous ne le savez peut-être pas, mais chaque invité est googlisé, donc j'ai tapé Tatiana. Alors en général, quand je tape le nom de mon invité, il arrive en 5e ou 6e position, et vous, quand on tape Tatiana, Silva apparaît tout de suite, donc vous êtes star de Google, voilà, Tatiana Silva. Alors après, les questions qu'on se pose sur vous, c'est Tatiana Silva en couple. Alors, est-ce que vous êtes en couple?
C'est privé.
C'est privé, vous ne répondez pas. Bon, alors, en tout cas, ça fait partie des mystères.
Ça ne vous intéresse pas vraiment dans le programme dans lequel on est.
Non, mais on parle aussi un petit peu de la personne.
D'accord.
Tatiana Silva, taille, combien vous mesurez?
1m70.
Voilà, Tatiana, alors je vous dis, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ensuite, c'est pour vous informer de ce qui est recherché sur Google. Après, il y a Alexis, après il y a enceinte, vous n'êtes pas enceinte, ça vous pouvez nous le dire.
Non, je ne suis pas enceinte.
Après, il y a Stromae, et après il y a salaire. Donc je vous demande votre salaire, vous allez me répondre, c'est privé, c'est ça?
C'est-à-dire que je n'ai pas directement envie de parler de ça, mais voilà, si vous voulez vraiment qu'on échange sur nos salaires mutuels et respectifs, on peut y aller, mais je pense pas que ça intéresserait beaucoup les auditeurs.
Je vous dis, c'est ce qu'ils recherchent sur Internet, donc en recherche, donc ça les intéresse. Je vais vous faire un petit quiz également pour mieux vous connaître. Ce que vous ne ratez jamais à la télévision, une émission que vous regardez?
Je suis peu devant la télé, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Ouais. Donc, il n'y a rien que je ne rate pas particulièrement. 4 minutes enquête, je ne la regarde pas en direct comme tous les auditeurs. Je la regarde en amont. Donc non, il n'y a pas grand-chose que je ne rate pas. Je me permets le luxe de pouvoir me couper de la télévision.
C'est vrai, donc la suite ne tient pas, puisque je vous demande combien vous avez de télé chez vous.
J'ai pas de télé chez moi, en fait. J'ai un ordinateur et je peux avoir accès au programme télé si je le souhaite, mais je n'ai pas de télé.
D'accord, donc c'est effectivement un nouveau mode de consommation. Est-ce que vous avez une émission qui vous a marqué, une émission culte pour vous?
Striptease, certainement, mais ouais. Alors c'est une émission belge de la chaîne RTBF. Ouais. Donc voilà, je pense que ça.
Qui était diffusée en France.
Des émissions plus mainstream comme Meilleur pâtissier qui est chez la concurrence ou Danse avec les stars chez nous, mais voilà.
D'accord. Alors quand vous faites Expédition Robinson, qui est une sorte de Koh-Lanta en Belgique, vous n'aviez pas vu l'émission, vous avez accepté d'y aller
Non, je connaissais le concept, mais par contre, moi, je suis quelqu'un qui est intéressé par le défi et l'aventure, donc je pense que c'était mieux pour moi de pas avoir vu toutes les diffusions, parce que je pense que ça m'aurait freiné dans l'idée de partir à l'aventure. Donc ça, je connaissais le concept, évidemment.
Donc ce soir, 90 minutes enquête, adultère, filature, disparition, le monde secret des détectives privés. C'est vrai que c'est un monde absolument fascinant. Vous avez appris, découvert des choses avec ces reportages.
Alors moi je savais pas que c'était une fonction qui était légiférée par la loi, par exemple, où il fallait vraiment passer par des études et une formation qui dure un an. Moi je pensais que c'était assez libre et je pensais que c'était pas aussi
encadré,
on va dire encadré, mais aussi aussi développé en Europe et notamment ici en France, que comme on le voit dans les films américains. Donc j'étais assez surprise, et à différents niveaux, c'est-à-dire qu'ici on va voir trois exemples, le jeune apprenti, mais surtout ceux qui s'occupent des adultères, mais alors aussi des gens disparus. Donc j'avais pas la notion que c'est quelque chose qui était vraiment d'application et qui était même recherché, puisqu'il y a une progression depuis 5 ans, comme c'était dit, de 35%. Donc moi j'étais assez surprise, et puis ça reste quelque chose d'haletant, c'est-à-dire de suivre une filature, peu importe laquelle, ça reste quelque chose qui est assez prenant. Donc je pense que les gens vont être assez surpris de voir comment ça fonctionne. C'est des longues heures d'attente, apparemment. Oui. C'est pas aussi excitant qu'on peut le voir comme on peut le voir dans un film, mais le résultat y est parfois.
Alors du coup, si jamais vous pratiquez l'adultère, c'est quoi l'astuce pour repérer un détective?
Je sais pas si j'irai repérer un détective, mais je pense que je m'amuserais beaucoup à essayer de jouer le détective déjà au sein de mon propre couple. Et puis, si vraiment je n'y arrive pas, effectivement, je sais pas si je ferai appel à un détective, je sais pas. Je pense que j'essaierai plutôt de mener ma propre enquête. Mais apparemment, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça qu'ils sont en plein essor et qu'ils sont si demandés et si prisés.
Rémi, le magazine 90 minutes enquête, c'est une valeur sûre de TMC.
Oui, hein, oui, absolument. Ce sont des magazines qui fonctionnent bien sur des thèmes assez différents, et on tourne autour des 500, 600 000 téléspectateurs. Il y a des pointes au-dessus. Tout à fait. Donc ce sont des rendez-vous réguliers et qui assurent à TMC, comme d'ailleurs il y a des magazines un peu concurrents sur d'autres chaînes, qui assurent des bassins, j'allais dire, de téléspectateurs. C'est important pour vous, Tatiana, d'avoir des audiences qui fonctionnent bien?
Mais en tout cas, voilà, moi je n'étais pas tout à fait au courant des audiences précises de l'émission en question avant qu'on me pose, qu'on fasse la proposition. Mais effectivement, pour TMC, c'est une des émissions et un des magazines phares vraiment de la chaîne TNT. Donc c'est très important forcément d'avoir de bonnes audiences. Après, la concurrence est forte, notamment face à nous, on a Good Doctor sur TF1 tout de même. Et puis parfois, les autres chaînes proposent des très très bons programmes également. Donc c'est jamais évident. Il y a une vraie offre sur les magazines, les reportages, et il y a un réel intérêt par rapport aux téléspectateurs aussi. Donc tout dépend des sujets qu'on aborde, de la concurrence. Moi je pense que ce sujet-ci est un sujet assez intéressant que moi j'ai rarement vu traiter. Alors après je regarde pas tout, mais voilà, là où parfois peut-être par rapport au comment suivent les gendarmes ou PSIG, c'est peut-être vu et revu, même si on change sur les angles. Mais ici c'est vraiment intéressant, c'est un bon reportage qui a été bien réalisé. Après il faudra voir si les gens feront leur rendez-vous et si ça leur plaît.
Vous vous impliquez dans le choix des sujets? Comment ça se passe?
Alors, je viens d'arriver, donc je m'implique, oui, mais il y a toute une série de reportages qui ont déjà été enregistrés. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est me diriger vers le milieu carcéral et psychiatrique. Le milieu carcéral, c'est prévu de toute façon. Psychiatrique, on est en train de voir. Donc voilà, je ne veux pas directement révolutionner l'émission. Elle marche bien et elle a ses téléspectateurs qui sont là fidèles.
Mais ça doit être frustrant, ce côté d'être speakerine.
Non, moi ça me frustre pas du tout. Je suis quelqu'un qui suis assez heureuse dans ma vie et je suis contente de ce que je fais. Donc non, pas du tout. L'exercice est intéressant, et puis je pense que Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut laisser les gens s'installer. On n'est pas là. Il y a une équipe en place. Il y a des gens qui font les reportages. Donc non, je suis pas du tout embêtée d'être speaking ou passe plat, comme vous pouvez le dire.
Oui, non, je voulais juste préciser pour les audiences, pour être plus précis, c'est qu'il y a eu plusieurs magazines qui ont dépassé les 900 000 téléspectateurs. Oui. Donc c'est au-dessus de ce que j'indiquais tout à l'heure. Et effectivement, c'est une valeur d'autant plus sûre de la chaîne.
Absolument. Bon, bah, on vous souhaite bonne chance, Tatiana, pour ce soir. 90 minutes enquête, merci adultère, beaucoup. Filature, merci, disparition. Le monde secret des détectives privés, effectivement, c'est une enquête assez incroyable sur ces détectives privés. Merci à vous.
Merci
au
à
revoir.
Vous.
Au revoir. Au revoir. Allez, on va passer à 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, ce soir, c'est un documentaire, Daesh dans le cerveau du monstre. C'est un documentaire d'investigation qui sera diffusé sur France 5 à 20h50. C'est le journaliste Kamal Redouani qui a enquêté et qui nous livre un reportage assez incroyable sur la manière de fonctionner de certains membres de Daesh. Donc, vous avez 30 secondes. Kamal Redouani pour nous convaincre.
Alors imaginez simplement que vous avez entre les mains l'ordinateur d'un émir de Daesh. Des milliers de documents officiels, des vidéos inédites, rien à voir avec la propagande du réseau terroriste. Cet émir est en charge en Libye des finances, de la police islamique, des esclaves et des jugements. C'est une vraie plongée dans le cerveau du monstre que je vous invite à découvrir ce soir sur France 5 à 20h55. Et sinon, il y a aussi un livre au même titre qui est édité par Flammarion.
Voilà, le livre s'appelle « Dans le cerveau du monstre, les documents secrets de Daesh ». C'est un livre donc qui trace le portrait d'un monstre en rentrant carrément dans sa pensée et dans sa tête.
Il a réussi à avoir des documents étonnants.
Ouais, incroyable, le discours de propagande justement de Daesh qui est en général évidemment pas diffusé. Donc ce soir, à regarder sur France 5 à 20h50. Alors à la télévision, on va avoir du mal ce soir, hein, Rémi.
Ah ben là, vous avez fait votre choix.
Il y a beaucoup de choses. Moi j'ai choisi.
Vous avez choisi France 3.
Attendez, il y a d'abord, évidemment, il y a Good Doctor
sur TF1. Moi, j'ai choisi Good Doctor face à France 3.
Voilà, il y a Trois hommes et un couffin sur France 2. C'est la pièce de théâtre, en direct.
Trois hommes et un couffin. De Colin Serrault.
France 3, donc, la soirée illettrée. Ouais. France 5, Daesh, dont tu viens de parler. M6, Maison à vendre. Et puis, on a sur TMC, 90 minutes enquête. Et sur C8, une comédie, Dumb and Dumber 2. Voilà. Mais bon, effectivement, moi,
je change pas d'avis. Je dis ce que moi j'ai envie de regarder, ce sera illettré. Maintenant.
Voilà, après la puissance de Good Doctor, en revanche, en deuxième position, c'est intéressant de pronostiquer. Et je pense, moi, que illettré, que la soirée, cet excellent téléfilm, va arriver en deuxième position et va devancer la pièce de théâtre.
Moi aussi. Gilles ?
Eh ben moi aussi.
Ah bon,
il n'y a pas de match.
Il y a sur Canal+, 120 battements par minute. Je crois que c'est la première diffusion à la télévision. Les coulisses d'ACTOP qui a été récompensée et qui est un très bon film également. Ouais. Eh ben on verra demain.
On aura tous gagné. Donc.
Voilà. Eh ben, ou perdu.
On verra ce que fait la pièce de France 2.
On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité, en particulier Gérard Collomb, qui annonce aujourd'hui qu'il sera candidat à la mairie de Lyon au mois de mai. Drôle de timing puisque dans le même temps, il annonce aujourd'hui un grand plan de reconquête des banlieues. Donc, on va en débattre. Restez avec nous.